autour de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs. Autour du sourire, de nos sourires partagés. Souriez, vous êtes humains. À tous les âges, dans toutes les cultures, nous savons, nous ressentons intimement la puissance d'un sourire. Sa beauté, son humanité nous touche en plein cœur, omniprésent dans l'art, comme sur nos photos de famille ou sur le visage des maîtres spirituels. Le sourire est pourtant peu étudié par les penseurs, quasiment absent de la philosophie. Jusqu'à ce que notre invitée, la philosophe Marie-Françoise Salès, ait l'heureuse idée de se pencher sur la signification et la portée de nos sourires. Des sourires et des hommes, une approche philosophique vient de paraître aux éditions Bayard, histoire de nous réchauffer un peu l'âme et le cœur en prenant au sérieux pour une fois le sourire, comme une fenêtre ouverte sur notre humanité partagée autour de la question « Que disent nos sourires ?» Bienvenue pour écouter celui de Stevie Wonder sur RFI, « Smile, please !»
An earth-like star, a frown can bring out the beauty that you are. Love within, and you'll begin smiling. There are bright days ahead. Don't mess your face.
Le sourire de Stevie Wonder sur RFI. Même à la radio, ça passe et ça s'entend le sourire. Bonjour Marie-Françoise Salès.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Merci d'être en direct avec nous pour partager tout ce qui nous échappe à travers nos sourires. Car le sourire, alors c'est pas du tout un sourire en deux mots, pas du tout. C'est tout de même un des angles morts de la philosophie peu ou pas étudiée. Vous vous êtes demandé pourquoi, Marie-Françoise, et comment explorer ce qui se dévoile dans nos sourires. Des sourires et des hommes, une approche philosophique, vient de paraître aux éditions Bayard. C'est votre premier ouvrage et il vaut vraiment le détour. Car on se rend compte que explorer le sourire, c'est tirer un fil presque infini. C'est vraiment ouvrir une nouvelle fenêtre sur notre humanité. Est-ce que vous le pressentiez en commençant cette recherche, que le sourire vous entraînerait aussi loin et nous entraînerait aussi loin, Marie-Françoise Salès?
Alors effectivement, je ne savais pas que le sourire était à ce point inexploré, je crois, au départ. Et c'est vraiment ce qui a attiré mon attention. Je me suis demandé pourquoi une chose aussi familière et pouvait à ce point être ignorée de la philosophie académique, comme si ça n'avait pas d'importance de sourire ou pas, ou en tout cas comme si le sourire en tant que tel n'attirait pas l'attention en fait et ne se donnait pas la possibilité, enfin, comme si on ne s'autorisait pas d'analyser à partir de la raison ce qu'était le sourire.
Ouais, comme si on ne pouvait pas le prendre au sérieux, finalement, ce sourire qui nous touche. Alors, vous avez été, comment dire, entraîné sur ce chemin-là, vous le dites au début de cet ouvrage, Des sourires et des hommes, par une phrase de votre père, c'est ça, qui oui. Vous disait quand vous étiez
voilà,
petite.
Quand, en fait, papa racontait qu'il avait été puni parce que son sourire ne plaisait pas. En fait, c'était la formule qui avait laconiquement été inscrite sur la feuille qui l'obligeait à être puni, enfin, voilà, recevoir une punition. Et c'était « sourire qui ne me plaît pas ». Et c'est vrai qu'une telle phrase m'avait beaucoup marquée parce que je me disais « mais pourquoi est-ce que, d'abord, pourquoi est-ce que le sourire peut déplaire ? Et pourquoi est-ce qu'il peut déplaire à ce point ?» qu'on veuille punir quelqu'un uniquement parce qu'il a souri, alors que le sourire est une mimique silencieuse. Dans le cadre de la scolarité, ça ne représente pas une menace quand même contre l'autorité absolue. Enfin, et donc c'était tout à fait étrange et étonnant. Et donc j'ai voulu comprendre pourquoi d'abord les sourires pouvaient déplaire, puisque d'emblée, je me suis rendu compte que sourire, c'était pas forcément quelque chose de formidable, de merveilleux, de joyeux, de gentil. Et aussi, comment se faisait-il que le sourire puisse avoir un tel effet et puisse susciter autant de méfiance de la part...
Mais le sourire a un effet considérable, en fait. Et c'est ça aussi qu'on découvre à travers votre ouvrage. C'est complètement autre chose que le rire. Hein. C'est vraiment quelque chose de particulier, universel, singulier, typiquement humain ou pas ? Est-ce que le sourire est le propre de l'homme ? Est-ce qu'il est partagé par d'autres animaux ? Vous posez la question aussi, hein, Marie-Françoise.
Effectivement, je pense qu'on peut se poser la question à juste titre. Si on considère que le sourire, c'est juste une réaction presque d'ordre physiologique qui manifeste une sensation de bien-être, il est évident que le sourire n'est pas le propre de l'homme. Les animaux aussi sourient de cette manière, c'est-à-dire qu'ils manifestent à l'extérieur leur bien-être, leur sensation confortable, de confort.
C'est le sourire aux anges des bébés, c'est un peu ça ?
Alors, c'est certainement le sourire aux anges des bébés, mais chez les animaux, ça ne se manifeste pas sur un visage, nécessairement. Les animaux contractent en fait des muscles particuliers en fonction de leur en fonction de l'espèce animale. Donc voilà, par exemple les chats sourient en clignant des yeux, les pies avec les plumes érectiles de leur queue.
Elles sourient avec leurs plumes. Et nous les humains, nous sourions donc avec votre bouche. Qu'est-ce que c'est qu'un sourire ? Parce que c'est tellement complexe, et on va y venir, hein. C'est très très complexe. Qu'est-ce que c'est qu'un sourire ? Comment le définir ?
Alors, le sourire, on peut le définir de façon descriptive, en disant qu'un sourire est une mimique qui mobilise certains muscles de la face, et donc en particulier les muscles autour des yeux et aussi autour de la bouche.
Voilà. Autour des yeux et autour de la bouche. Un sourire, il se voit dans les yeux et il se lit dans les yeux.
Alors,
aussi. Hein.
Il se voit dans les yeux uniquement si c'est un sourire spontané. Les psychologues appellent ces sourires spontanés, ces vrais sourires, des sourires Duchenne. Et en fait, Duchenne, c'est quelqu'un qui a mené un certain nombre d'expériences et qui a montré que lorsque le sourire était spontané, il mobilisait aussi les muscles des yeux, alors que le sourire qui est un sourire de commande, le sourire de politesse, est un sourire qui mobilise uniquement les muscles autour de la bouche. Parce que alors, les muscles autour des yeux sont beaucoup plus difficiles à maîtriser que les muscles autour de la bouche.
Voilà. Et le sourire, alors on l'a dit, à la fois universel et singulier, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, de soi, vers l'extérieur. Exact. Et qui s'affiche à l'extérieur.
Oui, voilà. Et ça nous permet de revenir sur l'importante question de la différence qui existe entre le sourire humain et les sourires chez les animaux. Chez l'homme, le sourire n'est pas qu'une réaction d'ordre physiologique. Chez l'homme, le sourire est très rapidement quelque chose qui est d'ordre intentionnel. Et je crois que l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure, à savoir que quand on parle d'un bébé qui sourit aux anges, c'est une façon de dire aussi que le sourire, il est toujours tourné vers quelqu'un. Le sourire est une véritable adresse lorsqu'il s'agit d'un sourire humain.
Sourire comme adresse, sourire comme partage de notre humanité aussi.
Absolument, comme partage de notre humanité. Et c'est une des choses auxquelles on reconnaît un visage humain, justement. Le sourire qui se forme sur un visage, pour les parents, pour tous les parents, c'est une façon dès que le sourire se forme sur le visage de leur enfant, ils sont émerveillés. Et c'est comme si, grâce à ce sourire, l'enfant pouvait être accueilli dans le monde véritablement humain. C'est une symbolique assez forte, je crois.
Et voilà pourquoi aussi le sourire, vous y revenez évidemment abondamment dans votre ouvrage, et on y reviendra, le sourire comme esthétique, le sourire est tellement présent dans l'art, dans les peintures, dans les photos. Le sourire est aussi présent dans les religions, dans les spiritualités, le sourire du Bouddha et autres. Enfin, c'est vraiment un signe de notre humanité.
Alors, c'est absolument un signe de notre humanité. À la fois un signe, quelque chose qui est inné, puisque le sourire, ce qui est au départ une mimique, se forme de manière absolument innée sur tous les visages humains. Mais par contre, c'est aussi quelque chose qui relève de la culture et donc quelque chose qui relève de l'acquis. On apprend à sourire en regardant ses parents par des échanges avec l'entourage. Et on apprend aussi à sourire en fonction d'un certain nombre de règles qui sont différentes en fonction des sociétés dans lesquelles on grandit.
Autour de cette immense question du sourire, en lien évidemment avec nos émotions, hein, c'est l'expression de nos émotions, je vous propose tout de suite, Marie-Françoise Salès, un nouvel éclairage scientifique, cette fois sur le sourire. C'est celui du professeur Martial Mermignon. Alors, il est chercheur au laboratoire de psychologie et neurocognition du CNRS à l'université Grenoble-Alpes. Et Martial Mermignon a développé, ça fait déjà quelques années, avec une chercheuse américaine, Paula Niedetal, une théorie du sourire qui est basée sur l'imitation, hein, vous le disiez. Pourquoi et comment les humains sourient et se sourient? On écoute Martial Mermignon.
Le sourire nous a particulièrement intéressé parce qu'il s'agit d'une émotion qui est très complexe, qui est très modulée par le contexte social dans lequel on se situe. En fait, un même sourire physique, même si ce sont des muscles qui sont clairement identifiés, en l'occurrence le zygomatique majeur et l'orbicularis oculi, en fonction de la situation sociale, peut être interprété de façon complètement différente. Par exemple, ça peut être un sourire de joie. Si c'est son anniversaire et que quelqu'un nous offre un cadeau, on va avoir un sourire qui est interprété comme de la joie. Et un sourire très similaire suivant si quelqu'un nous dit qu'il est désolé parce qu'on a eu un décès dans notre famille. On va sourire, mais c'est ce qu'on appelle un sourire misérable, c'est-à-dire que c'est une sorte de compassion pour la douleur éprouvée par autrui, donc plus liée à l'empathie. Et ces différents sourires, eh bien, vont impliquer des processus psychologiques et neuronaux qui seront complètement différents.
Vous dites, Martial Mermignon, donc, que le sourire, c'est l'émotion la plus complexe. Elle peut exprimer tout un tas de choses. Qu'est-ce qu'elle exprime et comment est-ce que ça se fait, par exemple, quand on voit quelqu'un sourire, on a souvent envie d'esquisser le même sourire?
En fait, c'est une émotion qui est très contagieuse. Et en fait, il s'agit d'une émotion qui est vraiment très facile à reconnaître. Que ce soit par des humains ou par des réseaux de neurones artificiels, mais vraiment, elle se situe bien au-dessus des autres dans la facilité et aussi dans la contagion émotionnelle. C'est-à-dire quelqu'un qui nous sourit très spontanément, très rapidement, on va répondre. Après, ça peut exprimer énormément de choses différentes. Il peut être lié à l'empathie en fonction du contexte. Il peut être aussi lié, par exemple, à de la dominance sociale. Ça peut être des sourires qui sont liés à un sentiment de fierté pour soi-même et puis avec le désir d'écraser autrui. Et voilà, c'est ce qu'on appelle la dominance sociale. Donc ça peut refléter des choses à la fois empathiques, mais aussi des sentiments beaucoup moins empathiques et beaucoup moins souriants.
De la complexité justement des sourires. Alors, ce chercheur Martial Mermignon répond en partie à la question de nos auditeurs sur les réseaux sociaux, Boubacar au Mali, qui nous demande et qui vous demande, Marie-Françoise Salès, s'il n'y a pas aussi des sourires chargés de mauvaises intentions.
Bien sûr, il y a des sourires qui sont des sourires terrifiants. Il y a des sourires joyeux, mais il y a aussi des sourires d'une grande perversité, des sourires aussi qui sont proches de l'indifférence. Je crois que ce que nous venons d'entendre est important parce que ça marque d'emblée la complexité du sourire. Mmh. Le sourire, il peut traduire une grande infinité d'émotions. En fait, c'est l'expression d'émotions. Mais c'est aussi donc d'une grande variété. Ça mm-hmm. peut, la peur, la colère, beaucoup de choses peuvent être exprimées par un sourire. Mais aussi, au croisement de cette expression des émotions, on retrouve aussi le sourire comme masque, c'est-à-dire toutes les règles sociales qui entourent le sourire et qui font que on peut utiliser le sourire pour cacher nos émotions.
C'est-à-dire le sourire de politesse qui est figé, qui est plaqué.
Absolument. Oui. Le sourire peut être le vecteur par lequel nous connaissons l'émotion de quelqu'un, mais ça peut être aussi le masque figé qui nous empêche d'avoir accès à ce que ressent vraiment l'autre. Donc c'est d'une grande complexité. C'est très complexe, d'où l'intérêt de l'étudier. Finalement, c'est ça aussi dont on se rend compte. C'est pourquoi est-ce qu'on a oublié d'étudier le sourire ? Parce que il dit plein de choses. C'est le reflet de notre âme. Enfin, vous dites que ça peut aussi cacher. En même temps, un sourire dans la rue, je sais pas, chez le boulanger ou quand on croise quelqu'un, ça peut illuminer notre journée. Un sourire, je trouve, hein, véritablement. Donc, il y a tellement de fils ambigus. C'est toute la complexité humaine au fond qui est un peu nichée dans le sourire.
Je le crois. Je le crois. C'est la condition humaine qui peut être vue à partir du sourire. Et dans, en fait, la condition humaine, mais dans toutes ses dimensions. Parce que le sourire, c'est manifeste le fait que nous sommes un corps, que nous réagissons, que nous avons une sensibilité propre, que nous sommes des êtres avec une intériorité, que nous sommes aussi des êtres en relation avec les autres. Et je crois aussi que le sourire manifeste, en plus de notre appartenance biologique et sociale, je pense que et psychologique aussi, enfin, et notre caractéristique psychologique propre, je crois que le sourire manifeste également une part de notre intelligence et de notre liberté.
Une part de notre intelligence
et de notre liberté.
Expliquez-vous un peu là-dessus, Marie-Françoise Salès.
Alors, je crois que quand vous dites que le sourire, un sourire peut illuminer une journée, je pense que vous dites quelque chose de très vrai et qui demande à être exploré davantage. Parce que pourquoi est-ce que le sourire, qui est une mimique tout à fait commune et banale, peut être de manière élective, si je puis dire,
nous émouvoir à ce point-là.
Voilà. Pourquoi est-ce que certains sourires nous émeuvent à ce point ? Et je crois que ces sourires qui nous émeuvent profondément, ce sont souvent des manifestations qui nous donnent l'occasion de saisir quelque chose qui n'est pas que de l'ordre du matériel et du social.
Qui est au-delà, au-dessus.
Absolument.
On en revient, enfin, on en revient à ces sourires spirituels. Le sourire est spirituel à tous les sens du terme, en fait.
En tout cas, il peut l'être. Il peut être l'occasion de saisir quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, de l'esprit. À tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire l'esprit comme étant quelque chose qui nous anime et qui fait que nous sommes des êtres de liberté, par exemple.
Voilà pourquoi le sourire nous échappe à tous les sens du terme aussi. Alors vous avez choisi autour de cette question du sourire, et ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas seulement parce que ça va nous rendre heureux, cette chanson que vous avez choisie, puisque c'est Pharrell Williams, Happy, en version originelle. Mais vous nous expliquerez pourquoi ce choix, il est plus profond, plus ambigu, plus complexe que ça, et illustre toutes les facettes du sourire. Pharrell Williams, Happy, sur RFI.
If you
Happy Pharrell Williams sur RFI, ça fait toujours du bien par où ça passe autour de la question que disent nos sourires en votre compagnie, Marie-Françoise Salès. Mais si vous avez choisi d'écouter ce Happy, il y avait eu à l'époque de sa sortie tout, plein de vidéos dans toutes les langues du monde qui sortaient parce que ça nous donnait le sourire, c'est parce que vous vous êtes arrêté sur une de ces vidéos.
Absolument. Alors en fait, il s'agit d'une vidéo qui avait été tournée en Iran, à Téhéran précisément, par 6 jeunes gens. Et la vidéo est toujours disponible sur YouTube, si vous voulez vous y référer. Et en fait, cette vidéo a valu un procès retentissant à ces 6 jeunes gens et une condamnation à... Alors, les condamnations étaient en fonction des jeunes gens, mais ça allait jusqu'à 1 an de prison et 91 coups de fouet.
Pour avoir
tourné cette vidéo, c'était sur les toits de Téhéran. Et je dois dire qu'il n'y avait aucune volonté de caricaturer ou de faire du mal. Ou c'était vraiment des jeunes gens qui dansaient, qui riaient, qui montraient, voilà, qui dansaient avec leurs pieds et qui suivaient le rythme de la musique.
Et en comme fait, quoi le sourire peut déranger, comme quoi le sourire peut valoir des coups de bâton. C'est quand même très fort, oui. Et de la prison.
Absolument. Sur le plan politique, il ne faut pas croire que le sourire soit quelque chose de neutre.
Il dérange.
Il peut déranger et il dérange en particulier toutes les pensées dogmatiques, en fait. Hein. Tout ce qui, c'est vrai aussi pour les religions, et c'est vrai dans le domaine politique, en fait. Donc, moi, ce qui m'avait beaucoup frappée à l'époque, c'est que cette condamnation, elle semblait signifier, c'était comme si on intimait l'ordre à ces jeunes gens d'enlever le sourire de leur visage, en fait. Comme s'il n'était pas possible de prendre de la distance et d'être heureux, de prendre de la distance. Et je crois que le sourire manifeste bien cette mise à distance.
Oui, cette petite prise, ce léger recul, au fond, ce souffle, c'est quelque chose comme ça, c'est un aller-retour
c'est
entre
quelque
ce qui est et ce qui nous arrive, peut-être.
Voilà, quelque chose qui est de l'ordre de la respiration et qui nous permet très souvent, d'ailleurs, de reprendre pied dans notre vie. Hein. C'est comme l'humour, en fait. Hein. Le sourire de l'humour, et le sourire tout court, c'est une façon de nous raccrocher à la vie. Et ça permet souvent à de très nombreuses personnes de vivre, tout simplement.
Tout simplement, et c'est déjà beaucoup. Autour de la question du sourire qui révèle notre humanité, pour le meilleur comme pour le pire, on l'a dit et on va continuer de le dire. Nouvelle question un peu poil à gratter et surtout à sourire de l'écrivain et professeur en sciences naturelles Alexis Génie, qui était récemment notre invité et qui a une question personnelle à vous soumettre, Marie-Françoise.
C'est quelque chose qui m'arrive depuis très longtemps, depuis que je suis gamin. Alors, j'ai tendance à avoir le sourire mal placé, c'est-à-dire qui se déclenche dans toutes sortes de situations et je me fais souvent gueuler. Parce que tu trouves ça drôle, etc. Et il y a quelque chose d'étrange. C'est-à-dire, pourquoi je me mets à sourire dans les situations un peu tendues et pourquoi ça fâche les gens ?
Est-ce que vous avez une idée ou une piste de réponse, Marie-Françoise Salès ?
La raison pour laquelle il sourit à contre-temps, je ne sais pas.
Ouais.
Mais moi, ce qui m'intéresse et ce que je trouve vraiment riche, en fait, c'est cette idée que ça dérange autant. Parce que justement, pourquoi est-ce que ça dérange ? Alors je crois que, en fait, quand on voit quelqu'un sourire, souvent, spontanément, on comprend ce sourire, ou on essaie de donner du sens à ce sourire. Mais si un sourire se fait à contre-temps, c'est un petit peu comme en danse, c'est-à-dire quand on danse avec quelqu'un et qu'il vous marche sur le pied, parce qu'il n'est pas, en rythme. Et donc, en fait, c'est exactement cela qui se produit. C'est-à-dire que je pense que pour les gens qui voient cette personne sourire, ils ne comprennent pas le sens de ce sourire. D'une part. D'autre part, comme ce sourire se fait à contre-temps, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas été, que cette personne n'a pas été attentive à eux, en fait. C'est comme si vous manquiez d'attention à l'autre, au fond. Quand vous ne souriez pas au moment où il faut sourire.
Et quand vous souriez au moment où il ne faudrait pas sourire.
Voilà, au moment quand donc, en fait, il y a vraiment une occasion qui fait que, et sur le plan psychologique, et sur le plan social, oui, effectivement, il y a des moments où il faut sourire et d'autres où il ne faut pas sourire. Et donc, je crois fondamentalement que ce qui gêne le plus les personnes qui sont confrontées à ça, ben, c'est tout simplement la manifestation d'une forme de liberté. Parce que malgré les injonctions sociales, malgré la politesse, malgré le fait que On est peut-être attentif à ce que dit l'autre, mais n'empêche que son sourire, notre sourire, c'est le nôtre. Et donc on l'accorde au moment où on le veut et à qui on le veut.
C'est ça, donc le sourire, c'est vraiment toutes les ambiguïtés de notre âme humaine, j'ai envie de dire, véritablement, parce que c'est à la fois symptôme de notre liberté personnelle individuelle, mais ça peut aussi être un sourire de politesse imposé par les autres. Enfin, on a vraiment toutes ces facettes dans le sourire. Et puis il y a aussi, vous le disiez à l'instant, que peut-être que le sourire, c'est un souffle qui amène autre chose, c'est un moment particulier. C'est éphémère, un sourire, il faut le saisir à l'instant où il arrive. C'est précieux parce que c'est très éphémère, très subtil comme ça.
Oui, c'est un phénomène tout à fait particulier parce qu'il est lié à l'instant, en fait. Un sourire apparaît à un moment donné. Il peut disparaître quasiment aussitôt. Il est très difficile de l'observer. C'est pour ça qu'on doit beaucoup aux artistes qui fixent les sourires, en fait, soit dans des textes, soit dans la peinture, soit dans la photographie, parce que les sourires sont difficilement saisissables. Et donc, les œuvres d'art nous donnent la possibilité d'explorer un certain nombre de sourires, pour mieux en comprendre le sens.
C'est-à-dire la peinture, évidemment, les photos, bien sûr. En même temps, nous, quand on fait des photos, on nous dit sourire. Enfin, c'est compliqué, ce sourire-là, parce qu'un sourire, il faut sourire, c'est un peu difficile.
C'est une injonction à sourire, qui est une injonction d'ordre social. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que, la plupart du temps, quand on nous demande de sourire, notre sourire est figé. Ce n'est pas un sourire du chêne, c'est un sourire qui n'est pas spontané. C'est un sourire de commande.
Voilà. Vous dites dans cet ouvrage aussi, vous avez un très beau chapitre qui s'intitule « Le sourire et le je ne sais quoi ». Parce que c'est tellement difficile quand on n'est pas artiste, justement, et quand on est philosophe, de parler de ce sourire. Et vous parlez d'un passage du clos à l'ouvert, enfin du fermé à l'ouvert. Il y a quelque chose comme ça aussi, même matériellement, sur le sourire.
C'est vrai que le sourire, c'est une mimique qui ouvre les visages, en fait. On a l'impression que presque les visages se dilatent lorsque le sourire est franc. Et donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ouverture. Surtout que le sourire est une mimique silencieuse, donc on n'a pas eu l'occasion de le dire encore, mais par rapport au rire, par exemple, qui est bruyant et qui secoue le corps, le sourire est une mimique silencieuse. C'est d'ailleurs pourquoi il est si prisé dans les codes de politesse, ou dans la vie sociale, parce que quand vous souriez, vous signifiez à l'autre que vous l'écoutez, que vous êtes en attention avec lui, et en même temps vous lui laissez la possibilité de s'exprimer, puisque vous êtes muet, puisque vous êtes silencieux.
Et oui.
Donc le sourire est vraiment une invitation à l'art de la conversation, en fait. D'ailleurs, en histoire, la préoccupation du sourire, si vous voulez, elle est née aussi d'autant plus dans les salons, en fait, littéraires, ou là où l'art de la conversation s'est développé.
C'est ça, c'est du face-à-face, le sourire. Et aujourd'hui, en ce moment, pendant cette pandémie, on est quand même souvent masqué. Vous-même, vous êtes professeur de philosophie, vous enseignez au lycée face à des élèves masqués. Où est le sourire dans tout ça? Alors, dans les yeux, quand on est en face-à-face, mais...
Voilà, c'est ça. En fait, quand on est devant une classe masquée, c'est très compliqué de voir les sourires, parce que, bien sûr, on peut voir les sourires authentiques aux yeux, mais d'abord, tous les sourires ne sont pas forcément spontanés. Et pourtant, ils font quand même du bien. C'est-à-dire que je pense que le sourire social donne du liant et nous permet de vivre de manière plus agréable les uns avec les autres. Et d'autre part, même pour ces sourires qui sont spontanés, c'est compliqué quand on est face à plus de 30 élèves, 35 élèves, de repérer les muscles qui se contractent autour des yeux. Donc c'est vrai que c'est une grande frustration et c'est vrai que le port du masque, de ce point de vue-là, enlève quelque chose à nos relations humaines.
C'est une réflexion qu'il va falloir avoir, j'imagine, après, comment sourire, se ressourire et pourquoi ça fait tant de bien. Alors vous l'avez dit, ce sont les artistes qui l'ont mis en avant, qui nous permettent de le saisir. Ceci dit, parmi les sourires les plus énigmatiques, il y a celui de la Joconde. semble le plus célèbre d'entre eux. Il a été étudié par des chercheurs en art et en sciences, à commencer par la directrice de recherche en neurosciences cognitives, Zoe Capula. Elle dirige l'équipe bien nommée IRIS, spécialisée dans la neurophysiologie du mouvement des yeux. Écoutez son éclairage sur le sourire le plus énigmatique et le plus célèbre de la peinture.
La Joconde, qui a stimulé énormément de recherches scientifiques récemment, surtout des recherches psychophysiques, l'importance des fréquences spatiales basses. Il paraît qu'on ne perçoit pas les sourires de la Joconde de la même façon en fonction de l'endroit où on fixe. Si on fixe sur les regards ou si on fixe plus bas vers la bouche, on perçoit des choses tout à fait différentes. Et donc, c'est un exemple fantastique de la manière dont l'artiste, avec les conflits et les astuces, a réussi à provoquer cette perception unique de ce sourire, mais qui disparaît si on élimine quelques fréquences ou si on regarde à un endroit qui n'est pas l'endroit clé pour percevoir son sourire. Si on module les fréquences spatiales, la texture du tableau de façon expérimentale, les chercheurs ont fait des expériences, des petites mutilations de lèvres pour voir justement comment si ce sourire est toujours perçu. Et je pense que c'est un exemple de sourire très puissant. Comment l'artiste les crée et qu'est-ce qu'il évoque au niveau du spectateur? Ça résonne automatiquement, les sourires et nos neurones miroirs, notre empathie, c'est une chose très puissante. Voir le sourire de quelqu'un, voir votre sourire maintenant, ça a un effet immédiat.
Ça a un effet immédiat, le sourire, et en particulier celui de la Joconde. Est-ce que vous voulez réagir, Marie-Françoise Salès, et ajouter quelque chose sur le sourire, la beauté du sourire dans l'art en général ?
Oui, ou même dans ce fameux sourire de la Joconde, parce que, enfin, moi, il me semble que Léonard de Vinci est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé au sourire, et que c'est un peintre trop réfléchi et trop, trop intellectuel pour avoir fait cela par hasard. Donc je pense que le sourire de la Joconde, il est très connu de tous, mais finalement, le motif du sourire a beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé Léonard de Vinci. Et je pense que le sourire de la Joconde, alors certains pourraient le qualifier de charmant, mais quelque part dans le charme, on se rend compte quand quelqu'un sourit et qu'on trouve le sourire charmant, c'est bien qu'on voit dans le sourire quelque chose qui est d'ordre immatériel en fait, parce que le charme, c'est quelque chose d'immatériel. C'est un peu comme l'allure de quelqu'un, quelque chose qui se dégage et qui n'est pas... qui n'est pas visible par des repères matériels particuliers. Donc, certains ne vont pas trouver forcément que le sourire de la Joconde est charmant. Par contre, je crois que tous, on ne peut être qu'intrigués par ce sourire.
C'est ça.
Et si on suit la lecture qu'en fait un historien de l'art qui s'appelle Daniel Arras, en fait, le sourire de la Joconde, il peut être analysé de manière très fine, comme étant la manifestation de l'infini dans le fini.
Et ça, c'est de l'infini,
de ce
qu'on ne pourra jamais englober complètement.
Absolument,
aussi, hein, c'est
absolument,
ça. Hein.
Voilà, de l'infini dans le fini. Daniel Arras fait remarquer quelque chose qui n'est pas toujours remarqué en fait, mais bon, c'est que l'arrière-fond du tableau de la Joconde comporte une forme d'incohérence, c'est-à-dire que les deux parties du paysage ne sont pas en correspondance l'une par rapport à l'autre. Et ce qui fait le lien entre ces deux parties du paysage, ben, c'est précisément le sourire. C'est cet endroit particulier du sourire, qu'est le sourire. Et donc, Daniel Arras fait une analyse absolument très convaincante. Personnellement, je trouve qu'elle est convaincante. Et cette analyse met en évidence qu'au fond, dans le sourire de la Joconde, il y a le lien qui ordonne quelque chose qui est de l'ordre de l'incohérence. Là, en fait, le sourire de la Joconde apporte un ordonnancement au monde et voilà, en mettant quelque chose d'humain au centre aussi de ce monde.
C'est ça, quelle puissance, hein. C'est vraiment ça, c'est vraiment la puissance extraordinaire du sourire qu'on sait un peu intuitivement, mais vous le disiez, les philosophes ne s'étaient pas intéressés. Et quand on lit votre ouvrage, on est impressionné par, oui, par la puissance du sourire et tous les fils, oui, que ça permet de tirer. C'est insensé.
Oui, c'est juste. Ce qui m'a beaucoup impressionné durant mes recherches, c'est que les sourires de l'histoire de l'art, vous disiez qu'ils étaient très présents, en fait, ils ne sont pas si présents que ça. Il n'y a pas énormément d'œuvres souriantes.
Et oui, il y en a beaucoup des très sérieux. Certains portraits comme ça de dirigeants, ils sont, oui, extrêmement sérieux. Ça nous choque même presque aujourd'hui quand on regarde ces tableaux du 19e.
Ou... C'est vrai. Ou avant. Mais alors, c'est pour des raisons historiques liées à l'art de la représentation et au portrait. Mais à chaque fois qu'on voit un portrait souriant, en fait, moi, ce qui m'étonne, c'est que on se dit « Ah, c'est merveilleux, ce sourire, etc. » Mais en fait, on ne se demande pas « Mais qu'est-ce que ça signifie du sourire lui-même » C'est-à-dire, on va s'interroger sur les raisons pour lesquelles le personnage qui est ici figuré sourit. Mais ce que le sourire dit en lui-même de l'homme, ben ça, c'est voilà, ça n'est que très rarement interrogé.
Et justement, qu'est-ce que le sourire en lui-même dit de l'homme? On va continuer à tourner autour de cette question-là, mais qu'est-ce qu'il dit de nous? Qu'est-ce que disent de nous nos sourires?
Alors, Marie-Françoise. Le sourire dit de nous tout ce qui fait notre humanité. Absolument tout. C'est-à-dire le fait que nous soyons un corps, le fait que nous soyons des êtres sociaux, le fait que nous soyons des êtres d'affection et d'émotion, le fait que nous soyons des êtres éthiques, c'est-à-dire moraux, le fait que nous soyons des êtres de liberté. Voilà. En fait, le sourire dit traduit toute la complexité et aussi parfois le mystère de ce qui fait l'humanité de l'homme.
Il dit aussi notre fragilité, parfois notre commune fragilité.
Effectivement, il dit absolument notre fragilité, le sourire est quelque chose de on l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est tellement attaché à l'instant, qui est tellement fragile. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, un sourire peut se modifier. Et en même temps, il a une force d'entraînement absolument inouïe. Donc, c'est de la fragilité et c'est aussi quelque chose de très fort, en fait.
Et oui, la fragilité et la puissance du sourire, de nos sourires, qui nous relie aussi à quelque chose de plus grand. Vous avez étudié la puissance du sourire dans les différentes spiritualités et religions du monde. On s'arrêtera sur le sourire du Bouddha, sur le sourire des dieux ou du dieu, des juifs, des chrétiens, des musulmans. Quand le sourire est spirituel, à tous les sens du terme, autour de la question « Que révèlent nos sourires ?» Allez, on s'arrête d'abord en musique, du côté de la Guadeloupe, devant le sourire, le très beau sourire de Véro Hermann Sambin.
Des lèvres jusqu'aux cils, irrésistiblement, te voilà qui remonte à l'assaut de la pente en une courbe gracile. Brodé par le silence, habilement tu m'aimantes et m'entraînes dans ta danse. Souris, ravi, contre mon gré. Souris, ravi de te retrouver. Éternité, sourire d'amour tissé. À ton fil qui s'étire, je m'accroche et j'oublie les plis creusés depuis ma fossette d'enfant. Ce que tu me coûtes, oui, sourire, tu t'en doutes. J'aimerais te garder, mais au risque de me tromper, tu préfères la liberté. Sourire, ravi contre mon gré. Sourire, comment te retrouver? Sourire, un jour, une éternité. Sourire d'amour.
Très joli sourire de Véro Hermann Sambin sur RFI. C'est pour vous, Marie-Françoise Salès. Pour la philosophe que vous êtes, qui vient de publier « Des sourires et des hommes », une approche philosophique, un essai original, vraiment innovateur, paru aux éditions Bayard, autour de la question de la puissance du sourire. Vous consacrez le dernier chapitre de cette étude inédite au sourire des croyants, à celui qui se dessine sur les portraits des maîtres spirituels, le sourire de Bouddha et d'autres. Je propose tout d'abord un dernier éclairage. C'est celui de Mathieu Ricard, moine bouddhiste et photographe, qui a publié, c'était en 2011, un très beau livre de photos, 108 sourires, photographié en Himalaya, au Tibet, par Mathieu Ricard, qui revient à notre micro sur RFI, sur la jeunesse de ces sourires qu'il a immortalisés avec son objectif.
Ah, il y a des sourires de ces vieux, de ces vieilles édentées qui débordent de joie de vivre. Et puis aussi, j'ai un couple d'images que j'aime bien, parce que c'était un homme de l'est du Tibet, un peu fier, un grand costaud. Et je le photographie au milieu d'une foule avec un gros téléobjectif. Et donc, il avait un regard un peu dubitatif, pas vraiment menaçant. Mais enfin, je disais, qu'est-ce que c'est que ça? Et parce qu'il ne savait pas sûr que c'était lui que je photographiais. Et puis donc, j'ai fait une photo de lui très sérieux. Puis j'ai fait un petit clin d'œil du côté de l'appareil. Et brusquement, un merveilleux sourire s'est épanoui sur son visage. Donc j'ai les deux images côte à côte et on voit la genèse d'un sourire, de l'ouverture à l'autre. On cesse d'être méfiant, on est prêt, on est content, on est heureux d'être avec l'autre. On se réjouit de cette peste avec amusement de le fait que je le prenne en photo, etc., etc.
Qu'est-ce que vous voulez susciter aussi avec ces photos de sourire? C'est à la fois de comprendre comment ça marche et aussi comment susciter ces sourires-là, vrais, sincères,
avec les yeux. L'abbé Pierre l'a bien dit, le sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. Donc, si vous voulez, encore une fois, c'est ça. C'est, dans le bouddhisme, on dit qu'au fond de nous-mêmes, on a comme une sorte de pépite d'or, un potentiel de bonté, d'amour altruiste, qui souvent est enfoui un peu dans la vase. On l'oublie et il faut la faire revenir à la surface, donner de l'espoir, montrer qu'il y a ce potentiel dans la nature humaine. Et c'est ça que j'essaie de transmettre par mes photos. C'est pour ça que j'ai du mal à prendre des photos de tragédie et de souffrance. Ça existe, bien sûr. Ce n'est pas un regard naïf, mais ces photos existent. Et moi, je voudrais montrer ce qui donne une note d'espoir dans la noblesse, dans la profondeur, dans la beauté, dans la bonté de l'être humain. Elle existe toujours. Oui. Nelson Mandela le disait quand on parlait de ses geôliers. Il disait, si on va chercher, on trouve toujours la bonté dans un être humain.
La beauté de l'être humain dans un sourire, ça vous va, Marie-Françoise Salès?
Oui, et alors je trouve que c'est très intéressant comme intervention. Ce qui me frappe, c'est que ça montre à quel point, en fait, le sourire dans les religions d'une manière générale, ici en particulier dans le bouddhisme, a à la fois une dimension propédeutique et aussi...
Propédeutique.
Enfin, alors, en fait, le sourire, c'est ce qui permet de signaler, en fait, à l'autre que quelque chose s'est passé en soi, en fait. Les Bouddhas souriants, ce sont des Bouddhas qui manifestent, parce que vous savez que normalement, le bouddhisme, c'est quand même une spiritualité qui conduit à se détacher de tout ce qui est d'ordre matériel. Mm-hmm. Donc, le sourire du Bouddha, c'est pas un sourire qui est lié à une émotion particulière. Mm-hmm. C'est le sourire qui apparaît, qui transmet à l'extérieur une conversion intérieure, quelque chose qui s'est produit.
Une félicité intérieure.
Voilà, le premier Bouddha, ben, quand il s'est éveillé, quand il a connu l'éveil, ben, cet éveil se manifeste par le sourire. Qui est donc, très souvent dans les religions, le sourire est une façon de manifester à l'extérieur que quelque chose s'est produit à l'intérieur. Et ce quelque chose pouvant difficilement être traduisible en mots. Donc c'est quand on voit quelqu'un sourire, c'est comme s'il vous adressait une leçon, en fait, d'une certaine manière. Une leçon. Et donc c'est quelque chose qui est de l'ordre de la transmission. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre de la volonté de prosélyte, en fait. Quand on...
De donner envie à l'autre. Exactement. Aussi. Hein,
on donne ça, envie à l'autre. C'est-à-dire que c'était un petit peu dans ce propos également. C'est-à-dire que oui, c'est plus agréable de se dire... on est plus attiré par des personnes qui sont souriantes que par des personnes qui sont fermées. Et donc,
le sourire parle à tous et à tout le monde. Alors, je ne sais plus lequel de nos auditeurs, je crois que c'est Christian à Kinshasa, qui nous dit « Le sourire est un des multiples visages de l'âme. » Et ce mot de l'âme, moi, il m'est venu aussi quand on parle du sourire. Enfin, le sourire, c'est quoi ?
C'est une expression de notre esprit. C'est ce que je disais. Et l'esprit, ça se dit aussi âme, en fait. Hein. L'âme, c'est une dénomination de l'esprit, en fait. Hein.
Voilà pourquoi ce sourire, il est présent. Vous l'avez étudié, que ça soit chez les musulmans soufis, notamment chez les juifs, absolument, dans le judaïsme, très présent. Au-delà de l'humour, hein, c'est pas la même chose. Hein, le sourire du Christ aussi, enfin dans le christianisme aussi, c'est une donnée très importante parce que c'est ce qui nous échappe, parce que c'est au-delà, parce que c'est ce qui nous relie. Alors, aussi.
Ça dépend vraiment les grandes traditions religieuses et spirituelles. En fait, il y a cet aspect pour les croyants. En fait, Est-ce que les croyants doivent être souriants ou pas ? Le bouddhisme et le christianisme répondent absolument oui. L'islam aussi, dans une certaine mesure, parce qu'il y a un certain nombre de hadiths qui montrent que Mahomet était souriant et qu'il faut vivre conformément à ce que Mahomet vivait aussi. Donc il faut se conformer à cela. Mais il y a aussi quelque chose, effectivement, qui est de l'ordre de la transmission et du message, particulièrement dans le bouddhisme.
D'ouverture, de profondeur.
D'ouverture. Et dans le christianisme aussi, quelque chose qui est de l'ordre de l'espérance, en fait.
De l'ordre de l'espérance. Dans le
sourire.
Oui. Et oui, bien sûr. Ça nous redonne l'espoir, en tout cas. On arrive à la fin de cette émission, même si le sourire est tellement énorme qu'on vous demanderait bien de revenir pour en partager encore un peu. Mais qu'est-ce que vous avez retenu, appris, qu'est-ce qui vous de cette étude formidable des sourires et des hommes? C'est un livre qui pèse un peu son poids, mais qui se lit avec le sourire et très agréablement. Qu'est-ce que vous avez retenu de tous ces sourires et de tous ces humains, justement?
J'ai retenu qu'il faut être attentif à ce qui semble le plus familier, le moins exotique, le plus modeste. Et que à partir de ces petits gestes de la vie quotidienne, dont le sourire fait partie, on peut effectivement parvenir à penser notre humanité. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose de satisfaisant. J'ai travaillé sur le sourire et même encore maintenant, je ne me lasse pas du tout de ce thème, même si je trouve que le sourire est un très beau sujet et je me réjouis d'avoir abordé ce sujet. Voilà, je n'ai jamais, à aucun moment, je n'ai ressenti de quelque chose qui pourrait être de l'ennui ou...
Et non, voilà. Le sourire, on ne s'en lasse pas du sourire. Merci d'être venu en direct.
Merci à vous.
Partager justement tout ce qu'il y a dans nos sourires, tout ce qui nous échappe encore dans nos sourires. Je rappelle le titre de cet ouvrage original et très inspirant, Des sourires et des hommes, une approche philosophique parue aux éditions Bayard. Et vous revenez quand vous voulez, avec le sourire évidemment. Hein.
Merci Caroline.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à notre podcast, disponible sur toutes les plateformes et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Achowski au micro, pour nous interroger sur la mesure. Pourquoi de la mesure en toute chose ? Piste de réponse quantifiable, les regards croisés de physiciens, d'historiens et de philosophes aussi, pour faire bonne mesure. Merci de votre fidélité, de votre interactivité. Vos questions nous inspirent, même si on ne cite pas toutes. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal à écouter en souriant, avec les yeux, bien sûr.